Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Eh bien bonjour les amis, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro, 9e édition de Débat IMO sur notamment les métiers de l'immobilier, mais les métiers de l'immobilier avec ce que ça recouvre comme empreinte sociale et sociétale, des débats passionnants qui vont nous animer tous, surtout des débats de société également, puisque l'immobilier est l'occasion également, l'espace est un lieu dans lequel se déroulent les relations intimes, sociales, sociétales, ce sont des agora de rencontres. Et donc on va en parler avec notre partenaire avec qui nous avons produit cette émission WeInvest, évolution des usages, évolution du secteur. On va aussi porter un regard sur les problématiques de logement, hein. On ne va pas dire que tout va bien, puisque justement on est quand même dans une situation de crise immobilière grave, mais cette fois-ci je vous propose un contenu sur le handicap et l'immobilier à travers une réflexion sur l'accessibilité des espaces. Justement, on va voir comment finalement, quand on est dans cette situation, on voit comment finalement la ville se dessine comme des chemins balisés. C'est ce qu'on va décrypter avec nos experts. Nous commencerons toujours, comme c'est tradition, avec un édito de Xavier Bellevaux quand il me regardera dans les yeux. Voilà, bonjour, bonjour Xavier.
Bonjour Sylvain.
Bon, comment il va Xavier ?
Il va bien le Xavier.
Je suis ravi de l'avoir. Voilà, ça c'est pour vous, vous êtes directeur général de WeInvest, et on va débattre avec nos invités que nous allons présenter. Il est avec nous à distance, il est athlète de haut niveau, 12 fois champion de France, champion d'Europe et multi-recordman de natation en e-sport, Axel Alétru, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, respect Axel, parce que vous allez voir les amis, comme quoi l'humain a des ressources absolument extraordinaires, et Axel Alétru, outre sa simplicité et son humilité, c'est vraiment un exemple remarquable. Je suis très heureux que vous soyez avec nous, et très fier que vous soyez sur Radio IMO. Édouard Pastor est avec nous. Oui, bonjour Édouard. Alors Édouard, vous êtes architecte DPLG, pionnier de l'accessibilité en France, fondateur et dirigeant de l'agence Pastor Architecte. Vous êtes surtout un expert en accessibilité. Vous-même, vous avez eu un accident qui vous a amené à avoir une réflexion, et vous êtes l'un des rares architectes à être spécialisé justement sur l'immobilier. Merci d'être avec nous. Merci infiniment.
Merci
Marc Vérobe également est avec nous. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vice-président de APF France Handicap, une association de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches également, puisqu'il faut parler des aidants également. Le rôle est crucial, et les aidants, ça parle beaucoup à Xavier Bellevaux. Il sait absolument de quoi on parle, et c'est important aussi de mettre l'accent et la lumière sur ces aidants-là également. Merci d'être avec nous, Marc. Et elle est à distance également avec nous, directrice qualité expérience client chez Domitis, Christine Daoud.
Bonjour
Christine, merci d'être avec nous. On a un très très beau casting, mon cher Xavier. Avant ce débat qui promet d'être passionnant, bien évidemment, on va recevoir, comme c'est l'usage tout à l'heure à distance, Caroline Pasquereau, donc directrice marketing et stratégique du groupe Empruntis. Et enfin, on fera également dans le lab, hein, vous savez, on a une séquence chaque mois
tout à fait
dans cette émission où on décide de mettre un focus sur une start-up. Là, pour le coup, c'est Thibaut Langiel qui est avec nous, qui est d'ailleurs sur le plateau, avec la start-up Noki. Voilà.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Comment ça va Thibaut ?
Très bien, très bien.
Voilà. Start-upper, hein.
Start-upper, on peut l'appeler comme ça, start-upper, voilà. Entrepreneur.
Voilà, comme quoi. Et puis il n'y a pas d'âge pour entreprendre et être start-upper.
Exactement, il ne faut pas croire que c'est réservé que aux jeunes d'ailleurs.
On n'est pas obligé d'avoir 20 ans, une capuche. On peut avoir 5 ans, etc. D'ailleurs, on avait écrit un article qui s'appelait « J'ai 50 ans, j'ai créé une start-up et je vous emmerde ». Voilà, c'est le ton de l'émission. Voilà, un ton léger également, qui aussi donne des axes de contenu sur des situations qui sont quand même pas anodines du tout. C'est le principe de notre émission, et c'est parti pour l'édito. Xavier, c'est à vous.
Allez, c'est à moi. Parler de handicap dans le domaine de l'immobilier, ce n'est pas aborder une question marginale, c'est avant tout au contraire interroger le cœur même de notre responsabilité collective, celle de concevoir des espaces où chacun peut réellement vivre, choisir, décider. Trop souvent, l'accessibilité est réduite à une dimension technique, à une largeur de porte ou à une rampe d'accès, mais le sujet il est bien plus profond que celui-ci. Derrière chaque norme se joue une question essentielle. Un logement favorise-t-il l'autonomie ou impose-t-il en réalité la dépendance des tiers? Permet-il de rester chez soi ou oblige-t-il à s'en remettre aux autres? Si on se souvient, la loi handicap de 2005, puis la loi Elan, indiquait qu'on allait rendre 100% du marché inclusif au niveau de l'habitat. Bah, dans les faits, on en parlera, je pense qu'on en est loin. Mais entre les textes et la réalité, le quotidien reste souvent semé d'obstacles. Selon les associations, se loger quand on vit avec un handicap reste un parcours difficile. Bâtiments inadaptés, offres insuffisantes, aides mal comprises. Et si en plus on ajoute à ça la problématique du fait qu'on a très peu de biens en location sur le parc locatif en France, ça vient encore plus tendre les choses. Et pourtant, derrière ces chiffres, il y a des vies, celles des familles, des aidants, des personnes qui veulent simplement habiter sans dépendre d'un tiers. Notre secteur ne peut pas se contenter simplement d'appliquer un pourcentage ou un quota, ou de cocher une case. Concevoir des logements aujourd'hui, ça doit être accessible. C'est participer à une société aussi plus juste. Voilà, c'est se demander si le logement est-il vraiment modulable, est-il pensé pour l'avenir, pour le vieillissement des populations et pour tout type de parcours de vie. Aujourd'hui, des solutions pourtant existent, la domotique, l'aménagement évolutif, l'habitat partagé, mais elles ne deviendront réalité qu'à condition qu'une volonté commune, celle des professionnels de l'immobilier bien sûr, mais aussi des élus, des institutions et des financeurs. Alors au fond, la question elle est simple, voulons-nous construire des bâtiments standardisés ou des lieux qui permettent à chacune et à chacun de rester maître de leur vie ? À débattre tous ensemble.
Merci beaucoup, ça donne tout de suite le ton du débat. Et bien sans plus attendre, on va y passer justement, à tout de suite. Entreprise, habitat, lieu de vie et chemin balisé, encore une fois, pour des personnes en situation de handicap. Xavier, en tant que professionnel de l'immobilier, vous estimez que le secteur est aujourd'hui, est-ce qu'il est suffisamment sensibilisé aux enjeux du handicap, indépendamment de la norme qui oblige dans certains bâtiments d'avoir la possibilité de recevoir des personnes dans cette situation. Mais si jamais j'écoute bien votre édito, on est quand même loin du résultat.
On est loin du résultat. Il y a encore un an, on nous parlait d'obligation des ascensoristes d'intervenir dans les 10 jours pour les personnes qui étaient en situation de handicap. Dans les faits, en fait, le texte n'a pas été adopté, ça n'a pas été voté. On en parlera tout à l'heure avec Marc. Au-delà de ça, dans le neuf aujourd'hui, effectivement, on a cette capacité, en tout cas, à pouvoir fournir des logements qui sont adaptés et standardisés aux personnes en situation de handicap. Dans les professions comme l'hôtellerie, quel qu'il soit, on a pu en mettre des normes qui sont en place aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait suffisant. Et dans le bâti, dans l'ancien, c'est catastrophique aujourd'hui. On le sait bien. Aujourd'hui, on le voit bien. Et puis, quand viennent s'ajouter les bâtiments de France, la partie ABF, la partie sauvegarde, là, c'est encore pire. Donc, il y a vraiment un vrai sujet d'ordre global sur j'ai un handicap quel qu'il soit, comment je peux me loger sans être dépendant d'une tierce personne. Parce que dans les faits, on a aussi une autre problématique, c'est qu'on a de moins en moins de personnes dans le social qui aident les personnes qui sont dépendantes. La voie, elle est parce qu'on a des rémunérations qui sont pas suffisantes, etc. Parce que, on a beaucoup moins de subventions qu'à une époque.
C'est quoi ? C'est un manque de ressources ?
Je pense qu'on a aussi un manque de ressources. C'est une réalité. Il y a un manque de ressources cruel dans notre pays qui fait que si on n'arrive pas à fournir des logements où la personne peut être autonome, on ne pourra pas y arriver. Et puis il y a aussi, je pense, comme je dis toujours, il y a le projet de vie de la personne. Aujourd'hui, quand tu as besoin d'aide pour aller au petit coin, pour monter 5 marches d'escalier, etc., c'est problématique dans ta reconstruction. C'est problématique. Et là, je laisserai les personnes qui l'ont vécu en parler. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment présent de manière réelle. Dans la théorie, on veut tous faire quelque chose. Mais quand il s'agit réellement d'alerter les pouvoirs publics, de ne pas lâcher, un exemple concret sur le handicap plus petit, les personnes qui sont en situation de handicap aujourd'hui. Il y a 30 ans, on construisait encore des IME, des instituts médico-éducatifs, des IMP, pour aider ces personnes en situation de handicap à grandir dans des lieux de vie qui soient adaptés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'en veut plus. On scolarise les personnes en situation de handicap comme des autistes ou des handicapés lourds dans des salles de classe. C'est pas possible, c'est pas leur chemin de vie, ils peuvent pas progresser correctement. Donc je pense qu'on a eu au contraire une régression par rapport à ce qu'on avait entre les années 80 et 2010. On a une régression.
Ah oui, vous y allez fort. Hein. Justement, on va compléter. Marc, du point de vue, Marc Vérov, du point de vue des associations, est-ce que vous jugez aujourd'hui, clairement, à l'instar de ce que vient de nous dire Xavier, que la réalité actuelle de l'offre de logement est accessible en France, et vraisemblablement, apparemment, elle n'est pas à la hauteur des besoins?
Alors la situation est très difficile. La loi de 2005 prévoyait 100% des logements totalement accessibles. On est revenu ensuite sur une loi Elan qui disait 20% de logements accessibles. Quand on voit la réalité aujourd'hui, on n'a même pas nos 20%. Moi, j'ai encore été faire une expertise d'un appartement il n'y a pas longtemps. La personne en situation de handicap ne pouvait pas vivre dans cet appartement. Pourtant, un appartement neuf, acheté sur plan. C'est incroyable, parce que le constructeur
n'a pas fait
attention. Pourtant, c'était bien indiqué que la personne était en situation de handicap, qui achetait, n'a pas du tout respecté sa volonté. La salle de bain qui était totalement inaccessible, les toilettes, il pouvait pas rentrer avec son fauteuil dans les toilettes, il y a une terrasse avec une marche de 17 cm, les prises sont tous au sol, on pouvait même pas circuler dans l'appartement avec le fauteuil parce que les couloirs étaient pas...
Vous disiez expertise, c'est parce qu'il y a eu un recours là du coup.
Il y a eu un recours, tout à fait.
Il va perdre le promoteur là.
Oui et non. Il y a des points de vue. Par exemple, c'est pas un balcon, c'est une terrasse inaccessible.
Mais le gars, il a acheté un appart sur plan.
Oui. En disant qu'il était...
En disant, et avec les spécificités, et ça, vous en avez la preuve.
Ah oui, tout à fait.
Et là, c'est incroyable.
Ah oui, c'est incroyable.
L'appartement, il est livré, et le gars, il peut pas y vivre, quoi.
Il peut pas y vivre. Voilà, tout à fait.
Mais qu'est-ce qu'il dit,
un appartement de 400 000 euros.
Mais qu'est-ce qu'il dit, le promoteur, là ?
Il dit, moi, je pouvais pas faire tous les aménagements parce que j'avais pas les moyens de le faire.
Il pouvait pas le dire au départ, ça ?
Ah, mais non, au départ, il était vendeur, donc il fallait que ça rapporte, quoi. C'est des situations incroyables.
Contractuellement, s'il y a un contrat qui est signé avec un engagement de livraison, si à l'intérieur, la description reprend l'ensemble des éléments qui doit être à fournir, quoi qu'il en soit, le promoteur pourra dire ce qu'il veut, il sera condamné à payer aujourd'hui.
Il sera condamné.
Alors, il sera certainement condamné si, à condition effectivement que contractuellement il ait pris ses engagements
et que ça soit bien notifié.
Et que dans la réserve, parce qu'il y a toujours des réserves quand on livre l'immeuble, qu'elle soit faite, et vous êtes intervenu en tant qu'expert pour l'aider, quoi.
Tout à fait, oui. Et c'est en effet en justice aujourd'hui, quoi.
Eh ben, vous inquiétez pas, on va le crucifier. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas croyable.
Ouais,
Vous voulez que je vous dise, c'est pas croyable, et à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire oui, c'est dans le contrat, c'est pas dans le contrat. C'est inacceptable de voir ce genre de choses. Inacceptable.
C'est les parents qui se sont endettés pour acheter cet appartement.
On en reparlera, on va faire ce qu'il faut. Je peux vous dire qu'ils vont avoir un réveil assez pénible. Merci pour cette intervention. Axel qui est avec nous à distance. Alors Axel, extraordinaire, hein. C'est franchement, je vous le dis, quelle leçon. Vous avez un parcours de vie incroyable. Je voudrais vous demander, alors je sais, on vous le demande à chaque fois, je sais que c'est un peu saoulant, mais voilà, de parler un peu de votre parcours, de vous présenter au public, parce que vous avez eu, alors c'est pas un obstacle, hein, c'est des dizaines d'obstacles. Alors vous, entre agir ou subir, vous avez toujours préféré agir. Je crois que c'est l'ADN de votre vie. J'aimerais que vous nous expliquiez d'abord quel est votre parcours, puisque vous avez été, avant même d'être en situation de handicap, une personne valide et un athlète de haut niveau, et vous avez continué dans cette veine. Axel, on vous écoute.
Oui, effectivement, donc Axel Lettru, j'ai pratiqué beaucoup de sport de haut niveau depuis mon plus jeune âge, avant mon accident, où j'ai été 3 fois champion de France de BMX, 3 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde. J'ai ensuite troqué mon vélo pour une moto, où de nouveau j'ai pu devenir vice-champion du monde junior, pilote professionnel, une vie rêvée, mais malheureusement tout ne se déroule pas comme prévu, la vie est faite de bonnes et mauvaises surprises. Le 27 juin 2010, je perds l'usage de mes jambes sur le Grand Prix de Lettonie. Et donc en une fraction de seconde, je passe de pilote professionnel à personne handicapée, où les médecins me prédisent un fauteuil à vie. De là s'ensuit tout un parcours en rééducation pendant presque 2 ans et demi, où j'arrive à récupérer quelques muscles qui me permettent de pouvoir me remettre debout avec des béquilles pour marcher quelques centaines de mètres. Et après, bah voilà, le sport me manquait. J'ai eu plusieurs possibilités. La première qui était de reprendre les études, la deuxième qui était de continuer de nouveau à avoir une carrière malgré le handicap. Et je me suis lancé dans le sport avec un objectif qui était de performer dans la natation handisport. Et ça a été un super succès pour rebondir. Je suis devenu 12 fois champion de France, vainqueur des Jeux européens, décroché 3 records de France. Donc ça a été extraordinaire. Puis derrière, j'ai voulu aller encore plus loin pour me battre avec les valides. Et notamment, participer au rallye qui est le plus dur au monde, qui s'appelle le Rallye Dakar, 10 000 km en 15 jours. Et donc, j'ai fait ce rallye en buggy avec mon copilote François. Et non seulement j'ai pu terminer ce rallye, ce qui est déjà extraordinaire, je peux vous le dire, mais en plus de ça, j'ai pu remporter la catégorie buggy et je deviens la première personne au monde handicapée à avoir pu remporter ce Dakar devant les valides. Donc, ça a été une première mondiale jamais réalisée, beaucoup d'émotions à l'arrivée.
Génial.
Donc, ça a été voilà, la boucle qui a été bouclée pour moi et derrière un énorme sentiment de revanche. Mais voilà, au quotidien, vous avez beau être un athlète de haut niveau qui a fait des défis, des challenges. L'accessibilité reste un sujet hyper important parce que vous avez beau faire des challenges qui sont extraordinaires comme le Dakar, le handicap vous rattrape au quotidien quand vous êtes en fauteuil roulant. Donc voilà, c'est des sujets qui sont extrêmement importants à débattre et je suis fier de pouvoir être avec vous sur cette table ronde pour évoquer tous ces sujets.
Qu'est-ce que vous diriez, Axel, si on devait, avec votre expérience de vie, puisque vous avez cette chance finalement et cette résilience de surmonter les obstacles, mais d'un point de vue objectif. Maintenant, vous êtes dans le camp des personnes qui sont en situation de handicap. Qu'est-ce que vous feriez, à l'instar de ce que vient de nous dire Marc, sur les difficultés qu'on a d'accès au logement? Alors vous, effectivement, vous êtes un athlète, vous êtes connu, peut-être vous avez peut-être plus de facilité, mais des personnes qui sont comme vous, alors ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que, voilà, quels sont les obstacles, pour être très clair, Axel, en dehors de ce que vous faites, auxquels vous avez fait face, justement, pour trouver une situation en termes de logement, là, tout simplement, les accès au logement par rapport à la configuration des lieux, la salle de bain, les toilettes, des choses qui seront très basiques et qui peuvent être une entrave grave lorsqu'on est en situation de handicap.
Vous savez, je pense que le sujet numéro un, c'est déjà éduquer les gens. Éduquer moralement les gens, leur expliquer qu'il y a toutes sortes de handicaps, visibles, invisibles, et ça, c'est le sujet numéro un. Si on avait des gens éduqués, comme Xavier d'ailleurs peut l'être, hein, parce qu'il est sensibilisé au handicap depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'il souhaite mettre en avant le handicap sur toutes sortes de sujets, parce qu'il le connaît très bien avec WeInvest. Et je pense que c'est ça le sujet, éduquer les gens là-dessus, pour qu'ils puissent comprendre qu'on existe et qu'il y a des, qu'il faut faire en sorte qu'on puisse avoir ces logements accessibles. Vous voyez, encore la semaine dernière, je vais à l'hôtel. J'ai bien mentionné que j'avais besoin d'une chambre PMR. J'arrive très tard à l'hôtel parce que j'avais un transport qui m'amenait tard à l'hôtel. La chambre PMR a été donnée à une personne valide. Et ça, c'est quotidien. Donc, incroyable. Je me retrouve à être dans une chambre d'hôtel qui n'est pas adaptée, à devoir... alors, heureusement, j'ai cette fameuse chance de pouvoir me mettre debout. Donc, ça, c'est extrêmement... c'est précieux pour moi. Mais imaginez une personne qui est vraiment en fauteuil roulant et qui ne peut pas se mettre dans la baignoire, dans la douche. Mais c'est un calvaire. Et à presque à chaque fois, je peux vous assurer qu'on donne la chambre PMR à des personnes qui sont valides. C'est un scandale.
Un scandale,
autre
ouais.
Chose, vous voulez prendre un taxi. Aujourd'hui, les taxis ont la flemme de vouloir juste mettre votre fauteuil roulant dans le coffre, parce que ça les emmerde. Donc, on voit bien que c'est juste une question de bonne volonté aussi. Il faut déjà que ça vienne, que les gens soient éduqués là-dessus pour comprendre, qu'ils soient sensibilisés et qu'après, ils mettent en place les choses. Avec les Jeux paralympiques, on a eu la chance de faire un énorme bond en avant pour éduquer les gens, expliquer qu'on existe. Alors après, avec le gouvernement, ça a été autre chose, parce que 15 jours après, on a très vite oublié le handicap avec un ministre du handicap qui a oublié d'être nommé. Mais si on regarde l'image avant les Jeux paralympiques et après les Jeux paralympiques, le grand public a été sensibilisé au handicap. Et ça, c'est un énorme pas en avant, ou en tout cas, personnellement, moi, j'ai vu une énorme différence avec une bienveillance sur les gens, beaucoup plus qu'avant, en tout cas. Mais voilà, j'en reviens à ce sujet, éduquer les gens pour qu'après, on puisse faire des logements accessibles, qu'on puisse avoir le métro accessible, le train accessible, des hôtels accessibles. Encore un autre exemple tout simple, mais ahurissant. Il y a 2 ans, je vais pour Canal+, avec mon film à la Plagne pour faire du ski, pour faire des images. On y va en famille, la chambre PMR ne peut accepter que deux personnes. Donc, est-ce que ça veut dire que parce qu'on est en situation de handicap, on n'a pas le droit d'être en famille dans une chambre ? Enfin, voilà, on en est sur ces sujets-là. C'est quand même très dingue. Et quand j'entends tout à l'heure Marc qui explique qu'un promoteur vend un logement qui n'est pas accessible, alors que sur plan, normalement, tout doit être fait, mais où est la morale des gens dans ça ? De se dire, on sait qu'on va vendre un logement qui sera peut-être pas, qui sera pas forcément adapté, mais on le vend quand même. Enfin, on va où ?
Non, mais vous avez mis le point sur ce qui fait défaut, parce que vous savez, Axel, là où la morale est faillible, c'est la loi qui remplace. Et vous observerez qu'à chaque fois que la morale n'a pas joué son rôle, la morale collective, la loi s'en est emparée. Et il y a fort à parier, bien évidemment, que là, par exemple, je vais vous donner un cadre. Normalement, moralement, je suis promoteur. Franchement, je le sais, je le fais. Et si je suis pas capable de vendre ou de produire, je signe pas le contrat. Là, on signe le contrat à quelqu'un qui savait qu'il allait pas le faire. Par contre, là, il y a une loi. Et là, la loi va s'imposer. Et quand la loi va le condamner, je peux vous dire que ça va être très, très, très délicat pour lui. Bien évidemment, le seul problème, c'est que ce promoteur peut très bien déposer le bilan et se retrouver, ce qu'on appelle, en situation d'impécuniosité. Ouais. Et c'est ça la vraie difficulté,
après,
malheureusement.
Après, Sylvain, on peut aussi avoir le principe de bonne foi où, tout simplement, le promoteur, on en parlera, je pense, avec Edouard, fait appel à des sous-traitants. Les sous-traitants, ils ont beau avoir un plan, un cahier des charges. Souvent, malheureusement, ils ne savent pas lire le plan ou le cahier des charges. Et en réalité, dans les faits, le promoteur découvre au tout dernier moment que le bien n'a pas été livré conforme.
Lui.
Ça, je l'entends, mais je dis juste que, dans les faits, ça n'empêche pas la condition. Sylvain, ce que je veux dire, c'est que la chaîne de valeur de la responsabilité collective, elle impacte tous les métiers. Et aujourd'hui, par exemple, dans le bâtiment, ou en tout cas, faites venir quelqu'un dans le bâtiment, rigolez, faites venir quatre personnes différentes, demandez-leur quelles sont les normes pour installer les toilettes, à quelle hauteur et quelle porte doit faire les toilettes pour une personne qui veut circuler en fauteuil, vous allez rigoler. Sur les quatre, il n'y en a aucun qui va vous donner la même chose. Donc je pense qu'on parlait tout à l'heure d'éducation, je pense que le handicap, quel qu'il soit, c'est quelque chose qu'on doit inclure beaucoup plus tôt dans la vie scolaire des enfants, quel qu'il soit. Et je pense aussi que dans tous les métiers professionnels qui touchent au bâti d'une manière ou d'une autre, ces éléments de base aujourd'hui doivent être pris en compte.
Alors attendez, quand vous dites vie scolaire, il y a quoi ? À l'école, on apprend ce que c'est que le handicap ?
Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, et sous le couvert de ces messieurs, mais vous avez des personnes en situation de handicap qui sont présentes maintenant dans les classes de CP, CE1 et CE2 avec des accompagnants.
Okay. Ça, c'est bien.
Je trouve ça très bien, mais on prépare pas les enfants. C'est pas le tout qu'ils soient là. Il faut aussi leur expliquer les différences, comment ils vont grandir, les choix. Et je pense que si...
Et c'est pas le cas.
C'est pas le cas aujourd'hui. Dans le cadre de l'éducation civique, regardez la dernière fois qu'on a revu nos livres, si tout simplement l'éducation faisait le nécessaire, on arriverait aussi à ce que ça soit quelque chose qui soit ancré beaucoup plus tôt et qu'on ait moins de différences au moment de l'adolescence.
Donc, pour être très concret, vous seriez favorable à inscrire une espèce de programme, quelque genre de programme, de sensibilisation pour les enfants à des personnes qui seraient en situation de handicap.
À partir du moment où...
C'est ça que ça veut dire.
Mais bien sûr, mais je pense que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est même essentiel.
On va poser la question.
Dans les faits.
On va justement... Oui, Axel.
Je vais rebondir là-dessus. À 16 ans, j'ai eu... donc, je n'ai jamais... Jusqu'à mes 16 ans, je n'avais jamais été sensibilisé au handicap. Et il se trouve que je dois me retrouver dans un centre de rééducation qui s'appelle l'Espoir, qui est dans le Nord, à 16 ans, dû à une ligamentoplastie du genou. Et c'est la première fois, du haut de mes 16 ans, que je rencontrais des personnes qui étaient amputées, des personnes qui étaient tétraplégiques, des personnes qui avaient eu un AVC, une maladie. Et je peux vous dire que quand je suis sorti de ce centre de rééducation, à 16 ans, ça m'a mis du plomb dans la tête, ça m'a énormément appris. Et quand j'ai croisé une personne en situation de handicap à la plage avec sa prothèse qui était apparente ou un mec dans un ascenseur qu'il faut aider, etc., bah j'étais sensibilisé. Je suis juste resté là-bas 3 semaines. Mais en 3 semaines, ça m'a fait un bond en avant qui était extraordinaire. Aujourd'hui, les gens ont peur du handicap. Les gens ont peur de attraper le handicap, ont peur de toucher un fauteuil, ont peur de s'asseoir dans un fauteuil. Éduquer les gens là-dessus pour qu'on puisse avoir non pas cette sensation de se dire « Oh là là, j'ose pas aider par peur de faire mal », mais décloisonner tout ça. C'est un énorme sujet. Et effectivement, comme dit Xavier, il faut éduquer les enfants. Mes enfants, j'en ai 2, ils me voient en fauteuil roulant depuis qu'ils sont nés, ils savent exactement qu'il faut... même à 5 et 4 ans, ils savent qu'il faut mettre une rampe à tel endroit, avoir des portes larges, super, m'aider dans telle situation.
Axel, est-ce que vous seriez favorable, à ce que, dans l'éducation nationale, on inscrive dans les programmes de CP, par exemple, très jeunes, vous savez comment on le faisait pour les images de comportement, enfin, moi, on faisait l'instruction civique à l'époque, sur les personnes, parce que ça m'évoque quelque chose. Parler du handicap de personnes, c'est parler aussi d'une certaine forme de différence, mais on pourrait élargir l'idée des personnes de différence, mais également à la couleur de peau, à la religion, à plein de sujets. En fait, c'est la différence qui fait peur.
Au lieu de parler de sexualité à des gamins de 4 et 5 ans en maternelle, faire comprendre qu'il existe des gens différents qui seront... Mais il faut être terre à terre. Apprenez-les déjà qu'il y a des gens de différentes religions, de différents milieux sociaux, de différentes classes sociales, etc. Qu'on est en situation de handicap, ça peut arriver soudainement, que ça ne sert à rien de se moquer parce que du jour au lendemain, ça peut arriver à tout le monde. Et ça, voilà, c'est un énorme sujet.
On va enchaîner. Christine Daoud, vous êtes à distance chez Domitis. Alors, votre mission à vous, elle est claire. C'est dans l'expérience client, c'est dans les résidences qu'on appelle les résidences services seniors. Comment l'autonomie et l'accessibilité, elles entrent dans votre conception d'habitat dédié? Alors là, vous êtes au cœur du réacteur, là.
Oui, alors pour Domitis, donc, qui est numéro un quand même des résidences services seniors, et dans les 200 résidences que nous avons, nos logements sont en majorité adaptés et adaptables. Pourquoi ? Parce que dès la conception, en fait, on s'appuie toujours sur le vécu quotidien des résidents pour créer des espaces de vie qui sont accessibles, qui sont simples à vivre, qui sont sécurisants. Et donc, dans la conception, en fait, avec les architectes, avec les équipes qualité, et puis avec les binômes de direction qui sont les futurs exploitants de ces résidences, eh bien, on veille à ce que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure avec le promoteur qui n'a pas respecté, qui a mis des marches, etc., que tous ces détails techniques soient respectés. Donc, autrement dit, moi-même, je suis déjà allée sur des chantiers pour m'assurer qu'on avait bien les prises à 90 cm, les interrupteurs à hauteur de main. Toutes les salles de bain sont systématiquement équipées avec des douches à l'italienne, donc sans ressaut, avec des barres d'appui qui sont déjà installées et des revêtements anti-débarrassement. Donc, en fait, chaque détail est vraiment fait pour réduire les contraintes physiques et puis pour préserver la liberté de chaque résident. Et c'est indispensable. Et en plus, en pied d'immeuble, nous avons donc des espaces communs, donc qui permettent de participer à des activités, des animations. Et là, on n'a pas qu'une adaptation PMR, on a également une signalétique claire qui permet également aux déficients visuels de pouvoir se repérer. Voilà. Et donc, notre objectif, c'est vraiment que chaque senior et personne handicapée que nous accueillons aussi dans nos résidences reste vraiment libre de ses choix et acteur de sa vie quotidienne. Voilà. Donc ça, c'est notre, je dirais, c'est notre ADN, c'est notre raison d'être chez Domitis.
Alors justement, ça me permet cette transition de parler à l'architecte Édouard Pastor. Architecte, selon vous, finalement, c'est quoi la plus grande erreur que l'on commet aujourd'hui dans la conception immobilière? Et je vais compléter. On parle d'accessibilité visible, la rampe, l'ascenseur, mais il y a aussi tous les éléments invisibles que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas, quand on n'est pas dans cette situation. Et que quand on est dans cette situation, qui prennent une importance capitale. Exemple, la lumière, oui, l'acoustique, voilà... aujourd'hui, voilà, si l'architecte que vous êtes dans la conception du bâtiment, si on devait prendre la photographie aujourd'hui, elle n'est pas très réjouissante, en fait.
Moi, j'ai un regard un peu différent. Hein. Moi, je suis dans ce milieu de l'accessibilité depuis une trentaine d'années, et il n'y a pas des promoteurs foireux, il n'y a pas d'architectes incompétents. Le tout, c'est que un process de projet est grand. Je veux dire, ça se situe de la conception, travail sur les plans, à la réalisation, réception de l'ouvrage. Il peut se passer 3-4 ans. Pour le musée de la Marine, il nous a fallu 7 ans avant que le musée réouvre. Alors, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'obstacle majeur. On est 3 personnes handicapées ici, et je suis sûr que on va buter sur des obstacles différents. Maintenant, les normes, c'est des limites. On a parlé des seuils, on a parlé des largeurs de passage, des sanitaires adaptés. Il faut savoir que dans un process, il faut anticiper. Le promoteur, dans ton cas, Marc, moi, j'ai eu ce cas parce que je suis aussi expert judiciaire. Il s'est planté dans le sens qu'il y a des contraintes structurelles. Et s'il n'a pas anticipé que la terrasse devait recevoir une étanchéité de 15 cm, ensuite, on a une marche. Voilà. Je dirais que, moi, vraiment, ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est qu'il n'y a pas de gens mauvais à la base. Il y a des promoteurs et des architectes qui n'anticipent pas.
Pardonnez-moi, Edouard.
On a des erreurs.
On connaît bien l'immobilier. D'ailleurs, je poserai la question au professionnel, puisqu'on on a de la chance qu'on a un pro sur le plateau. Je signe le contrat sur lequel je travaille sur un plan, sur lequel je fais des spécificités liées à la nature de l'usage. Je l'ai vu, moi, je l'ai vu un million de fois, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on a, effectivement? Alors, je dis pas que le promoteur, c'est un voyou. Je dis simplement que le promoteur, quand il a livré, et d'ailleurs c'est normal puisque c'est contractuel, les réserves qui lui sont opposées font qu'il n'a pas respecté ce plan. Mais imaginez la situation de quelqu'un qui est dans situation d'occupation, dont les parents, a priori, se sont lourdement endettés, et qui se trouve dans cette situation. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va falloir rembourser, il va falloir 2 ou 3 années de recours.
Ouais. Je vous réponds.
Que c'est pas de sa faute, quoi.
Préambule que j'étais assistant maîtrise d'ouvrage et pas architecte, c'est-à-dire que j'accompagne l'architecte sur tout le projet. En ce moment, l'architecte et un promoteur, on travaille pour l'association des aveugles et donc des malvoyants, l'AVH. Sur Nanterre, et on est au 6e projet, car à chaque fois, je leur dis attention au débattement de portes, attention à l'éclairage, attention à l'emplacement de l'ascenseur et tout ça. Mais je veux dire, c'est une mentalité, peut-être, c'est moi-même qui suis utilisateur de fauteuils roulants, je sens très bien les choses, mais comme vous l'avez dit, il y a des normes structurelles, et ensuite des normes invisibles qui touchent l'éclairage, qui touchent les contrastes, qui touchent les revêtements glissants, non glissants, qui touchent la signalétique. Donc tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe.
Xavier Bello.
Oui, on en revient tout simplement à ce que je disais tout à l'heure, c'est une problématique de connaissance et de compétence. C'est pas un principe de mauvaise foi, moi ça j'arrive pas à y croire. Structurellement, je suis complètement aligné, c'est hyper compliqué à reprendre quand on se retrouve avec 17 cm qui sont à reposer, ça je l'entends. Mais dans les faits, si on remonte, aujourd'hui on manque d'AMO qui soient formés sur le handicap, qui soient compétents, vous êtes trop peu. Ça, c'est premièrement. Il nous manque de formation, même des formations simples avec, comme je dis souvent en rigolant, des fois dans la restauration, dans la cuisine, vous avez votre ABCD. Voilà, en gros, vous savez exactement telle recette, telle chose. Et ben, je pense que tout ça, ça devrait être beaucoup plus présent. Il devrait avoir une formation continue beaucoup plus importante pour les archives parce que les méthodes ont changé, parce que les évolutions, on doit les prendre en compte. Maintenant, je partage complètement ton avis qui est de dire à un moment, de base, le promoteur peut pas être de mauvaise foi. Il l'entend, mais dans les faits, même en construction de maisons individuelles, je le vois bien chez les CCMistes, quand vous voulez aujourd'hui avoir des baies vitrées qui s'ouvrent en raid zéro sans avoir de marche, c'est toute une histoire dans les faits. Parce que les gens, les architectes s'en rendent pas compte dans la chaîne de mobilisation. Donc je pense que dans les faits, on tape assez sur l'immobilier pour rien. Je pense que ce n'est pas des gens de mauvaise foi. Par contre, une fois que c'est là, je pense qu'on a des problématiques d'architectes, de connaissances, de compétences. Et pour économiser ces fois certains postes, on ne veut pas aller étudier ce dossier un peu plus au bout, et c'est là où on a un problème. Donc on en revient à la culture globale sur le sujet. Tant qu'on ne sera pas beaucoup plus fortement, et notamment nos pouvoirs publics, parce que dites-moi aujourd'hui au niveau du parc locatif ou du parc professionnel aujourd'hui, en tout cas public, au niveau des ERP, qui c'est qui les respecte? Vous allez dans une CCI sur deux, on peut pas monter les escaliers à l'entrée parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, à l'intérieur, etc. Et c'est la même chose dans plein de domaines d'activités différentes. Donc je pense, regardez, on parle dans l'immobilier de rénovation énergétique. Ben c'est tout bête. Aujourd'hui, on donne des subventions pour aider les propriétaires à rénover leurs biens pour qu'ils puissent le louer dans de meilleures conditions. C'est super. Pourquoi ne pas avoir pris en compte dès le départ que ces appartements puissent répondre aussi aux besoins des personnes en situation de handicap ? Et ce qui ne serait pas compliqué. Quand tu dois refaire ton isolation intérieure et quelques travaux, eh ben, tu peux très bien revoir un peu d'électricité ou revoir une, j'ai envie de dire, des choses très simples pour les toilettes. Voilà. Et je pense que dans les faits, on n'a jamais une réflexion globale. Voilà.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Xavier, et je lance aussi à votre réflexion, et je voudrais que la parole circule, c'est l'adaptation du logement. Puisque là, on est dans une situation où on a un logement neuf. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on sait que 80% du bâti qui nous entoure, voire plus, sera toujours présent en 2050. Et que la régénération urbaine, c'est la transformation du bâtiment. Il y a des bâtiments qui sont obsolètes. Je prends par exemple le cas des logements qui étaient des bureaux avant, qui ont été réadaptés. Mais aussi des appartements qu'on doit transformer. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect du vieillissement de la population qui fait qu'aujourd'hui les salles de bain se transforment en douches. Et d'ailleurs, le gouvernement sous Julien de Normandie avait impulsé la transformation des salles de bain avec MaPrimeAdapt qui permettait de transformer l'habitat. Donc je lance cette question et je vais commencer par Axel. Est-ce que justement le gouvernement, avec MaPrimeAdapt qui a été développé, je précise que MaPrimeAdapt versus MaPrimeRénov n'a pas été revue, hein, c'est-à-dire qu'elle est toujours valide et elle est toujours activée. Est-ce que l'idée, Axel, d'aller vers un immobilier qui se transforme, qui se régénère à travers son adaptation, peut être une piste intéressante quand on sait qu'aujourd'hui on ne construit plus. Parce qu'il faut savoir que le marché de la construction de logements neufs s'est rétréci de moitié en moins de 2 ans et qu'aujourd'hui on ne construit plus. Et donc quid de l'avenir des personnes en situation de handicap qui devront nécessairement avoir à la place de la baignoire la salle de douche. Enfin, tu vois les difficultés auxquelles on peut faire face. Axel.
Clairement, alors le problème, c'est encore une fois les démarches aujourd'hui pour avoir des dossiers, des aides à la MDPH ou ce genre de choses. C'est des dossiers qui sont fastidieux, très compliqués. Donc, avant même de commencer, déjà que vous êtes arrivé en situation de handicap, ça vous a fracassé moralement, vous reprenez une claque avec un dossier où il faut faire de la paperasse.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais oui.
C'est la réalité. Donc, c'est très compliqué. Donc, faciliter l'administratif et avoir des primes pour l'adaptation pour les logements qui sont parfois pas adaptés. Oui, je suis pour, clairement. Je prends mon cas. J'avais une maison qui n'était pas du tout adaptée avant mon accident. Avec quelques petites adaptations, la maison était encore valable.
Bien sûr.
On n'a pas de raser la maison et de tout refaire, mais quelques petites choses qui permettaient de faciliter mon quotidien. Mais malheureusement, pour faire ces adaptations, ça coûte très vite cher. Un monte-escalier, on en a pour 8-9 000 euros, pour monter à votre étage.
Oui, oui.
Donc c'est des choses qui peuvent vite être compliquées, où on fait appel à des associations pour avoir de l'aide, des financements, etc. Mais moralement, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et je voulais aussi rebondir là-dessus, où tout à l'heure, on prenait le cas de l'adaptation du logement que ce monsieur a acheté tout à l'heure, enfin a acheté au promoteur. Ok, peut-être il y a la loi qui s'applique, on va pouvoir trouver des solutions, etc. Mais les ennuis pour sa santé mentale de devoir prendre un avocat, faire des recours, etc. C'est pas facile. C'est pas facile. Mentalement, il faut tenir pour faire tout ça. Vous voyez.
Alors justement, l'aide au logement. Pour les personnes en situation de handicap et dans votre association, vous aidez les gens, justement, Marc.
On appelle ça chez nous du handi-droit.
Alors.
Et on aide vraiment.
Handi-droit. Pas mal, ça.
Handi-droit. Ouais, ouais. Et on aide vraiment les personnes en situation de handicap à remplir leur dossier MDPH ou à l'ANA ou des choses comme ça pour pouvoir avoir un habitat décent.
Est-ce que MaPrimeAdapt, ils savent ce que c'est, vous l'utilisez un peu?
Nous on le connaît parce qu'on essaye de connaître tous les types d'aménagements possibles, aménagements financiers.
Ils prennent 100% MaPrimeAdapt, sans condition de ressources spécifiquement selon les dossiers.
Bien sûr.
La transformation de la salle de bain en douche, par exemple, c'est énorme parce que j'ai vu un truc, alors vous me dites si je me suis trompé, quand j'ai cherché un peu les statistiques, la plupart des accidents domestiques se déroulent dans la salle de bain.
Exactement.
C'est vrai ?
Moi j'ai chuté dans un hôtel, il n'y avait pas de sol antidérapant, et malheureusement je me suis rattrapé à la tuyauterie. Et la tuyauterie a cédé.
Ah oui.
Et je peux vous assurer que l'hôtel était inondé.
Ah oui.
Et moi, j'étais au sol, et on a dû appeler les pompiers pour m'aider à me relever. Quoi.
Ouais, vous retrouvez quasiment en tenue très légère.
Très, très légère.
Carrément à poil. Ouais. Et avec la. Non, mais c'est.
Avec la tuyauterie dans les mains.
Non, mais. Axel, on a l'impression que c'est un film, mais c'est pas un film, non, hein, c'est le quotidien. Hein.
Juste Sylvain, je me permets, parce que vous parlez de la MDPH et des dossiers. Il faut savoir aussi que la problématique, quand tu rentres dans l'univers de la MDPH, vient...
Alors, MDPH, on dit
MDPH. Maison départementale, MDP... Comment
Maison départementale des personnes handicapées.
Voilà.
Qui sont aujourd'hui les MDA, Maison des autonomies, parce qu'ils ont regroupé le handicap et les personnes âgées.
C'est ça. Voilà. Et la problématique sur les MDA, c'est qu'à partir du moment où tu fais une demande de subvention, quelle qu'elle soit, doit être jugé ton quotient ou ton taux de handicap. Ton taux de handicap, en fonction de si c'est 30%, 4%, c'est ce qu'on appelait à l'époque le taux d'efficience cotorep, qui a évolué avec les années, si je ne dis pas de bêtises. Mais dans les faits, tu te rends compte que, tu parlais de ma prime adapte, pour l'avoir pratiquée pendant quelques années, notamment dans l'immobilier pour des clients, la problématique que tu te rends compte derrière, déjà le dossier, il est fastidieux. En fonction de la personne et de son taux de handicap, la subvention n'est pas la même. Et après, il faut que tu trouves l'entreprise qui va pouvoir te faire réellement ce qu'on appelle une douche à l'italienne. Parce qu'il y a des entrepreneurs, pour eux, une douche à l'italienne, un bac de 5, c'est une douche à l'italienne. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc voilà, donc il faut juste qu'on soit vigilant. Et c'est en ça où je trouve que vous parliez de parcours du combattant, c'est un réel parcours du combattant. Parce que dans les faits, c'est sûr que si en plus t'attends, et alors, les dossiers MDPH pour le traiter pour des personnes en situation de handicap, tu peux attendre 6 mois, 8 mois, 1 an. Et pendant ce... Voilà, et ça peut aller jusqu'à 2 ans pour avoir la validation, mais après, il faut faire tes travaux. Mais la personne, pendant ce temps-là, elle est toujours où ? Par exemple, dans son logement, peut-être HLM, parce qu'elle ne peut pas se loger ailleurs au 10e étage, l'ascenseur est en panne depuis 3 mois, comment on fait ?
Voilà. Alors justement, c'est intéressant parce que je voudrais donner la parole à Edouard et ensuite à Christine sur le sujet. Edouard, vous avez déjà conçu des espaces adaptés dans votre métier. Est-ce qu'on peut parler d'espace universel ou pas ?
Non, c'est très difficile.
Qui sont pensés, donc c'est une vue de l'esprit de dire que c'est pensé universellement pour tous, valide et non valide.
Oui, disons qu'on va parler de conception universelle, de conception inclusive, mais il vaut mieux parler d'évolutivité, si on veut, d'adaptabilité,
d'accord.
Modularité, okay. pour mieux cerner, en fait. Moi, en fait, je voudrais revenir à la prime adapt, que j'utilise pas beaucoup, parce que, en tant qu'expert, je fais mes clients, c'est des retours à domicile suite à accident. C'est un avocat qui me désigne. Et en fait, le souci, c'est pas tellement l'appartement, c'est la chaîne de déplacement. Comment je rentre dans mon immeuble? Si la porte est trop lourde, elle n'est pas domotisée, comment je prends de l'ascenseur? Est-ce que la boîte aux lettres est à bonne hauteur? Est-ce que la porte d'entrée, vous avez un seuil ou pas? Et ensuite, voilà. Le dernier cas que j'ai eu, ça date de 2023, une personne accidentée dans un vélo, quoi. Il a été percuté par une voiture, donc paraplégique. Il achète un appartement en rez-de-chaussée PMR, j'en ai eu pour 80 000 euros d'adaptation. Il en a eu, lui, quoi. 80 000 euros d'adaptation.
Wow.
PMR, accessible.
Est-ce qu'il a été aidé ou pas, en termes de subvention ?
Non, parce qu'en fait, c'est les assurances qui paient. Le retour à domicile, après accident, c'est les assurances.
Donc, est-ce que, justement, on peut dire un mot là-dessus, sur les assurances ?
Bien sûr.
Est-ce qu'ils jouent leur rôle, Marc ?
Alors, moi, quand j'ai eu mon accident, c'est une personne qui avait bu de l'alcool. C'était le 24 décembre, je partais faire réveillon. Cette personne avait déjà fait réveillon.
Vous étiez en moto ?
J'étais en moto. Ouais. Et malheureusement, le juge a...
Vous avez copié la priorité ?
Oh non, il est venu dans ma voie. Ah ouais, il m'a percuté et il a dû se réveiller à ce moment-là. Et il a donné un coup de volant et ses roues arrière me sont roulées dessus, quoi. C'est comme ça que j'ai été très grièvement blessé, parce que, pas par le choc, mais ces roues arrière qui m'ont écrasé. Et au niveau des assurances, moi je suis tombé sur un juge dans les années 80, là, les motards c'était des bad boys quoi. Le juge a estimé que j'aurais pu éviter l'accident. Parce que...
Non.
Ah si, si, si. Et donc j'ai eu 30% de responsabilité. 30% de responsabilité, ça veut dire, par exemple, ma prothèse qui vaut 140 000 euros, j'ai 30% au moins de...
30 000 euros.
Ouais, voilà. C'est... Dans l'adaptation de mon logement, c'était pareil. Vous avez le droit à ça par les assurances, moins 30%, parce que j'ai 30% de responsabilité. Et j'ai fait appel à ce jugement, mais oui. Comme c'est des copains juges, ben il n'a pas...
Est-ce que vous avez épuisé, pardonnez-moi, c'est un ancien magistrat qui vous parle, toutes les voies de recours ?
Non, j'ai été jusqu'en appel. J'ai pas été plus loin.
Est-ce que vous avez perdu en appel ?
J'ai perdu un appel, oui. Ils ont confirmé les 30%.
Et vous auriez pu aller en cassation, du coup.
J'aurais pu aller en cassation, mais après, on part dans le boulot. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études.
Mais c'est ce qu'on disait, d'ailleurs, également avec Axel, c'est qu'il faut avoir les moyens de le suivre, etc. Justement, Axel, la place des assurances là-dessus, est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? Est-ce qu'ils jouent leur rôle ? Objectivement.
Alors, moi, je suis pas du tout le bon cas, parce que moi, j'ai touché 0 €. Les assurances n'ont pas du tout joué leur rôle. Pourquoi ? Parce que je suis tombé sur une compétition. Et il faut le savoir que si vous êtes accidenté sur une compétition, malheureusement, vous ne pouvez prétendre à rien du tout.
Mais attendez, quand on est licencié sportif, quand on a une licence de sport et qu'on fait une compétition de haut niveau, normalement, vous êtes couvert. L'organisateur de la course ne. Non ?
Alors, la licence vous couvre, dérisoire, hein, 30 000 euros. Donc, étant donné, si vous achetez un fauteuil roulant, une voiture adaptée, vous en avez déjà, c'est terminé. Donc, rien du tout par rapport à ce que coûtent vraiment les adaptations. 80 000 euros pour un appartement, c'est pas exubérant, hein, c'est la moyenne, hein, si on veut quelque chose de bien adapté, un fauteuil roulant, etc. Donc moi, non, j'ai touché que 30 000 euros. C'est difficile à avaler parce que vous êtes déjà dans une situation très compliquée et en plus faut trouver les moyens pour adapter votre chez vous, son chez soi. Donc mentalement ça a été, je vous l'avoue, quelque chose qui a été difficile.
Mais comment vous avez fait du coup avec les ressources de la famille?
Je vais être franc avec vous. Comment j'ai fait? J'avais la chance d'être chez mes parents à l'époque. J'ai dormi en bas pendant plus de 3 ans sans pouvoir aller à l'étage. Donc je dormais dans le garage. Voilà, je dormais dans le garage. Je me lavais avec une bassine aux grandes toilettes.
C'est dingue.
Et quand j'avais la chance d'aller chez des copains ou par exemple chez mes grands-parents, qui étaient âgés et donc un logement adapté pour eux, je prenais une douche là-bas. Donc voilà, ça a été 3 ans de galère. Mais on vous explique que vous n'avez pas le choix. J'ai fait un dossier MDPH qui a pris... il a fallu me reconnaître en situation de handicap. Donc déjà, première chose.
Ouais.
Il a fallu avoir mes cartes handicapées. Puis ensuite, faire les démarches pour avoir les subventions pour adapter ma maison. Et il faut savoir que si, par exemple, avec vos 30 000 euros, vous avancez l'argent pour les adaptations, pour les faire un peu le plus vite possible,
oui,
on vous dit « Ah ben non !» Vous avez avancé l'argent, ce que vous avez avancé,
c'est une réalité.
Mais c'est une blague.
Non. Donc en gros, si incroyable, tu attends jusqu'à 2 ans pour avoir tes accès à la MDPH et qu'ensuite tu refais ton dossier, tu sais que t'es perdu pour le parcours des combattants.
Christine Daoud, quand on est dans un contexte de service senior, avec effectivement toutes les difficultés, puisqu'on observe que sur cette classe d'actifs, il y a de moins en moins d'investissements sur les seniors, et c'est un drame absolu, quand on sait que notre pays vieillit et qu'en 2050, plus d'un tiers de la population aura 65 ans. Enfin, je dis ça, mais je dis rien.
plus.
Comment, ouais, absolument. Comment, c'est incroyable, mais c'est incroyable, mais vrai. Comment vous anticipez justement, Christine, les usages, notamment la dépendance légère, parce que on parle de dépendance, mais il y a des dépendances avec des degrés, les problématiques de mixité, mais également de mixité sociale, mais également le problématique du vieillissement qui est en train de s'accroître, puisque nous sommes, il faut assumer l'idée, l'Europe est un continent vieillissant et l'inversement démographique, il n'est pas prévu pour demain. Hein.
Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup parlé de MaPrimeAdapt, d'adapter le logement, mais le choix de venir dans une résidence service senior, c'est déjà parce que le logement est en grande partie adapté et peut être encore plus adapté selon les besoins de la personne une fois qu'il est installé et qu'il va donc nous demander, par exemple, d'installer tel et tel équipement supplémentaire. Mais en fait, notre orientation, notre stratégie principale, c'est quand même de travailler sur la prévention de la perte d'autonomie. Et donc là, on met l'accent sur la promotion du bien-être et la santé des résidents et on essaye en continu d'améliorer donc les résidences pour permettre à tous de vivre dans les meilleures conditions. Et ce qui fait que, en fait, au niveau du lien social et de la mixité, on capitalise beaucoup sur nos équipes qui sont présentes tous les jours, 7 jours sur 7, et qui vont jouer un rôle de médiation et qui vont permettre également à des populations différentes de vivre ensemble. Parce que la moyenne d'âge, c'est à peu près 82 ans. On a des personnes qui sont en situation de handicap, qui utilisent des déambulateurs, mais qui utilisent aussi des fauteuils roulants. Et on peut avoir également des personnes qui peuvent être très légèrement désorientées. Et toutes ces personnes ont la volonté de rester à domicile. Donc la prévention est un axe important pour pouvoir leur permettre de rester à domicile et surtout de trouver avec eux des solutions pour pouvoir donc utiliser leur logement et les espaces de la résidence le plus possible. Voilà, les espaces, c'est quand même à peu près entre 800 et 1000 mètres carrés. Hein,
oui, quand même, oui.
On va trouver un salon multimédia, on a une piscine et à la piscine, on a également un dispositif de mise à l'eau pour pouvoir permettre aux personnes qui sont en fauteuil ou qui sont à mobilité réduite de pouvoir utiliser aussi cette piscine. Et Dieu sait que les exercices aquatiques, ça peut être aussi une source de bien-être. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez, c'est cette philosophie de vie qui permet donc de réaliser une bonne mixité. Alors, je ne veux pas vous dire que tous les jours, on n'a pas forcément des réflexions des uns et des autres. Mais vous savez, les vieux, c'est toujours les autres. C'est jamais soi. Ce genre de remarques également.
Oui, voilà. Oui. C'est...
Je voulais juste dire que je me sers de Domitis comme hôtel. Assez fréquemment. Ah oui, oui. À Ajaccio, j'y vais assez fréquemment. Je vais dans la résidence Domitis pendant une semaine.
Ouais, c'est super. Ouais. Hein. Moi, je trouve
oui,
ça.
On
je trouve ça...
Alors,
on va parler. On va parler maintenant de financement. J'aimerais qu'on parle de financement puisque Caroline Pasquereau est avec nous a priori en ligne en régie. On me dit qu'elle est connectée.
Absolument, bonjour.
Bonjour Caroline Pasquereau, je rappelle que vous êtes directrice marketing stratégique du groupe Empruntis. On va aborder justement à la fin de l'émission, mais je ne voulais pas qu'on aborde la fin de cette émission sans parler du financement, les problématiques de financement. Est-ce que vous pouvez nous faire une revue de détails ? Et j'aimerais que Axel, Edouard et Marc aussi commentent les éléments clés que peuvent jouer aujourd'hui comme rôle les financeurs.
Très bien, absolument. Donc les financeurs, donc ici on parle de biens d'acquisition, je vous ai entendu parler sur de l'aménagement, de l'acquisition de nouveaux logements qui soient adaptés.
Voilà, pour des personnes en situation de handicap, quel que soit d'ailleurs le degré de handicap.
Absolument. Donc, si on parle de financement immobilier, on a connu une crise assez importante, hein, elle n'aurait échappé à personne, avec une fluctuation de taux. Aujourd'hui, si on fait un état des lieux, on est à des taux qui sont redevenus dans les normales du marché, à savoir entre 3 et... soyons un peu fous, 3,5%. On a pu craindre un peu un affolement et une augmentation des taux parce que on était dans une situation qui était plutôt une anomalie de marché avec des taux qui étaient inférieurs à 2% pendant quelques années. Cette anomalie de marché, on ne la retrouvera plus d'ici des années, puisque enfin, bah, par principe, c'est une anomalie. Et donc, la normalité aujourd'hui des 3%, si je simplifie le discours, permet d'être dans un bon moment pour acheter. On est dans des volumes de production qui sont bons, on est avec des établissements bancaires qui soutiennent le crédit par des initiatives aussi privées, donc avec des enveloppes qui sont avec des taux qui sont un peu bonifiés par moment. Voilà, donc les banques continuent, elles n'ont pas du tout fermé les vannes. Si on parle un peu aussi des taux et de l'incertitude qu'on peut avoir aujourd'hui, tant politique que géopolitique, et donc cette répercussion sur les taux. On a eu un peu peur cet été que les taux ne reprennent à la hausse parce qu'il y avait de l'instabilité gouvernementale et que les taux de référence sur lesquels les banques vont se refinancer, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'État emprunte quand même plus cher que les propres particuliers. Donc, on est aussi sur une période qui est assez assez étrange et qui n'est pas dans de la normalité. On avait peur que, vu cette agitation-là, les taux réaugmentent au sortir de l'été, ce qui n'a pas été vraiment le cas. Et puis, porté par une instabilité gouvernementale, on a les taux de référence qui ont un peu chuté. Donc, finalement, ça s'est équilibré entre la hausse que l'on pouvait pressentir en mois de septembre et cette instabilité de septembre aussi, octobre, qui font que les banques ont maintenu leurs taux. Celles qui ont un peu augmenté ont plutôt réajusté parce qu'elles avaient des offres commerciales plutôt agressives et donc elles ont réajusté, mais de très peu. Hein. Quand je vous dis 3%, c'est la moyenne, on est passé à 3 à 10, donc ça ne change pas grand-chose sur les mensualités sur du long terme. Quand je dis pas grand-chose, c'est sur 250 000 euros empruntés sur 20 ans. Quand vous augmentez de 0,15, ça fait 20 euros par mois d'impact. Donc sur le coût du crédit, ça a un impact, mais sur la mensualité, ça n'a pas beaucoup d'impact.
Tout le monde est Caroline, sur le handicap, tout le monde n'est pas éligible à pouvoir avoir un financement ad hoc. Est-ce que c'est un peu provocant, mais est-ce que vous prêtez est-ce qu'on prête mieux aux personnes au handicap, ou est-ce que justement dans le scoring, c'est comme ça hein, quand on dit un scoring ou des ratios, il y a aussi de grosses galères qui peuvent attendre les dossiers de financement, parce que c'est pas le tout d'être en situation de handicap, mais si je suis dans l'incapacité de me faire financer, c'est pas une double peine, c'est carrément une triple peine. Hein.
Alors, sauf erreur de ma part, je ne connais pas de scoring des banques qui prennent en compte le handicap, ni dans un point, ni positivement, ni négativement. Ça ne rentre pas dans des critères, heureusement, si ça devait être négatif, ça ne rentre pas dans du scoring de banque. La contrainte que l'on peut rencontrer, que les banques peuvent rencontrer, c'est plutôt au niveau des assurances. Dès lors que l'assurance, et vous en parliez tout à l'heure sur les prises en charge, mais dès lors que l'assurance emprunteur couvre le prêt, alors les banques suivent. Il n'y a pas de malus ou de bonus au handicap sur les prêts. C'est vraiment une question de solvabilité. Alors j'entends effectivement plus le handicap est lourd et impacte effectivement très certainement l'activité professionnelle. Alors là, on a par définition, finalement, quelque chose qui vient être un frein parce qu'il y a moins ou pas d'activité professionnelle, qui est liée certes au handicap, mais il n'y a pas de malus d'handicap. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance.
Un petit commentaire, justement. Alors, on profite de la présence de Caroline.
Il faut savoir que l'allocation adulte handicapé est en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, pour se faire financer, c'est très compliqué. C'est quasi impossible quand on a l'allocation adulte handicapé. Vous parlez d'assurance, c'est très compliqué aussi de trouver des assurances qui vous financent quand vous avez un handicap ou une maladie. Derrière, c'est toujours le taux de mortalité qui fait que... Et en plus, oui, voilà, on a d'autres taux et les assurances sont plus chères.
Alors, pour résumer, vous perdez votre boulot parce que vous ne pouvez plus travailler et vous êtes handicapé. Vous êtes plus assurable parce que les assureurs vont vous supprimer gravement, etc. Vous êtes plus finançable. Qu'est-ce qui reste? Le gaz, l'électricité
Sylvain, oui. Nous, on aurait des centaines de raisons à aller dans la rue et manifester. Mais... on ne dit rien, on subit beaucoup, et par rapport au préjudice qu'on a, je peux vous dire qu'on est très humble par rapport à tout ça.
Mais pourquoi ça, alors justement, Axel, pourquoi ça bouge pas plus?
Ça bouge un petit
peu.
C'est
compliqué de ça bouge, mais c'est ça bouge, mais vraiment au ralenti. Mais on, comme je le dis, on pourrait manifester tous les jours pour dire qu'on a.
Axel, vous êtes un Axel.
Je vais vous dire encore une chose. Oui. On parlait de l'allocation adulte handicapé. Oui. Là, ça a changé enfin en 2000 l'année dernière. Je crois.
La PH. Hein.
Vous pouviez pas. Vous ne pouviez avec l'âge. Vous ne pouviez pas vous marier. Parce que si vous étiez marié,
ou être en couple,
les ressources de votre conjointe pour déduire votre allocation.
C'est combien l'allocation adulte handicapé ?
1030 euros. On est à 1030 euros aujourd'hui d'allocation adulte handicapé. Et c'est vrai qu'on a réussi à avoir la déconjugalisation.
Mais attendez, est-ce que ça se cumule avec d'autres aides ? Est-ce que l'APL, ça vient en plus ?
Ça peut venir en plus. Oui, tout à fait.
Non, parce qu'avec 1000 balles par mois, je ne vois pas comment on vit. Hein.
Ah, mais c'est très difficile. C'est très difficile, on est sous le seuil de pauvreté.
Après, juste pour nuancer un peu les choses, parce qu'effectivement, oui, le combat est difficile, oui, c'est pas simple. Pour autant, on a quand même réussi à faire bouger les banques avec la délégation d'assurance qui a été ouverte il y a quelques années, parce qu'avant, c'était réellement très compliqué. Aujourd'hui, dans mon métier au quotidien, ça nous arrive de faire assurer des personnes qui sont en situation de handicap. Effectivement, on a quand même des assurances aujourd'hui qui sont plus présentes. Moi, je me rappelle, j'ai commencé le métier, les personnes qui étaient atteintes de maladies séropositives, on ne pouvait même pas les faire financer. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à faire financer, les choses se mettent en place, et c'est pareil pour les personnes en fauteuil. Donc oui, la situation, elle n'est pas idyllique, et ça, on le sait tous, on en est bien conscient. Pour autant, il y a des choses qui se mettent en place, et le rôle d'un courtier, malheureusement, aujourd'hui, c'est d'accompagner un dossier. Si effectivement, dans les faits, tu veux acheter un bien qui est à 400 000 euros et que tu as 1 000 euros de revenus, peu importe que tu sois valide ou pas valide, dans les faits, tu ne pourras pas l'obtenir.
C'est oui, sauf que la personne qui a 1 000 euros de revenus peut être en capacité de passer à 2 à 3 000 s'il évolue professionnellement, tandis que la marge de manœuvre du handicap, si je peux m'exprimer ainsi, sans faire de mauvais jeu de mots, elle est beaucoup plus restrictive. C'est un bon combat, Axel, c'est un très bon combat à mener pour un athlète de haut niveau, justement, de faire bouger les lignes.
Alors, on obtient.
Et je m'y engage au sein de la rédaction, mon groupe média est à votre service. Totalement bénévolement, si vous avez besoin d'une chambre d'écho. Je vous le dis, et j'ai qu'une parole.
Alors, on obtient une petite victoire quand même. Je vais le dire à Axel, les fauteuils roulants, à partir du 1er décembre, seront remboursés intégralement. 100%.
Ah oui, mais même les fauteuils roulants mécaniques, là, des trucs
mécaniques ou électriques.
Ça peut coûter jusqu'à quoi, 20, 25 000 euros, par
contre. 55 000 euros.
55 000 euros.
On peut aller jusqu'à 55 000 euros. Un fauteuil roulant électrique avec un verticalisateur. C'est jusqu'à 55 000 euros. Et à partir du 1er décembre, les fauteuils roulants seront remboursés intégralement par la Sécurité sociale.
Bravo.
Ah mais faut savoir que c'est pas du gratuit, parce que dans la tête des gens c'est du gratuit.
Ah non, c'est pas du gratuit, mais...
On paye des impôts, on paye beaucoup.
Bien sûr, on paye.
Oui,
tout à fait.
Là, Axel, on est tous d'accord autour de la table pour dire qu'on paye des impôts pour plein de choses.
Chers amis, je veux... Oui, excusez-moi Axel.
Dans la tête des gens, c'est gratuit, c'est pas gratuit. On a payé avant pour prétendre à ça, et ça combien d'années depuis début.
Alors Axel, les amis, je resterai bien une heure de plus, mais le temps nous est compté, donc je voudrais qu'on puisse conclure, mais pour bien conclure, j'aime bien faire un petit tour de table très rapide, vous avez 30 secondes chacun pour nous faire une conclusion, si vous avez un mot, vous avez un adjectif qui illustre le propos, je suis preneur, hein, ça me permet de faire un peu la punchline, on va commencer justement par vous Axel, rapidement. En quelques mots, message à faire passer.
Hashtag je peux, c'est mon slogan. C'est mon slogan dans tous mes défis. Et je pense que le défi, ce défi de l'accessibilité, c'est le défi de tous. Donc, on a fait un énorme pas en avant depuis 15 ans par rapport à 2010, ou quand j'ai eu mon accident, et aujourd'hui, 2025, l'évolution. Continuons. On n'est pas les pires des élèves en Europe ou dans le monde. On n'est pas les meilleurs. Mais on avance, et c'est avec des paroles comme celle-ci, comme on a fait aujourd'hui, qu'on va faire avancer les choses ensemble. Voilà.
Merci Axel. Restez connectés, on va se quitter dans quelques instants. Édouard Pastor.
Moi, je vais profiter du fait qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour dire qu'il faudrait de l'intelligence architecturale et donc beaucoup plus de formation, d'empathie, et voilà, pour tous les acteurs du projet.
Marc Vérome.
Moi, je vais dire un petit peu le slogan d'APF France Handicap. On existe depuis 93 ans et c'est risquer l'impossible. risquer l'impossible pour le droit des personnes en situation de handicap. Je voudrais, mon rêve, c'est qu'un jour APF France Handicap n'existe plus et que les personnes ont tous leurs droits comme les personnes valides. Je ne suis pas anti-validiste hein, du tout. Hein,
mais risquer l'impossible.
Risquer l'impossible, c'est le slogan de notre association.
Merci Marc Béraud. Christine Daoud.
Moi, je dirais que, voilà, travaillons et anticipons tous ensemble, et je rejoins l'anticipation des projets, pour vivre ensemble, et donc mieux vieillir, mieux circuler, mieux vivre dans des espaces qu'on a pensés pour tous, que ce soit pour des personnes âgées, que ce soit pour des personnes handicapées, et je pense que il y a encore de nombreux espoirs pour pouvoir avancer sur ces thématiques. Donc voilà.
Merci. Merci Christine. Caroline, qui est toujours en ligne avec nous, Caroline Pasquereau.
Oui.
Un mot, justement, pour bien conclure.
Alors moi, je vous dirais que justement pour dans les besoins de financement, et j'entends la complexité du financement dès lors que il n'y a plus de revenus du travail et que c'est plus compliqué, justement de bien s'entourer au niveau du conseil et de l'accompagnement, c'est le rôle principal du courtier qui a une vue exhaustive des assurances qui sont proposées, puisque le nerf de la guerre, c'est quand même l'assurance en fait qui va peut-être poser problème, et les moyens de financement. Donc voilà, donc chez Empruntis, on a un réseau de courtage avec un maillage territorial important, et j'encourage effectivement à aller chercher du conseil au mieux pour pouvoir trouver des solutions.
Ok. Pour ce débat, le message que vous voulez faire passer, Xavier Welzou ?
Moi, je dirais la modularité. Pourquoi la modularité ? Je vais souvent au Japon, et je trouve que c'est dans des tout petits lieux, des personnes qui sont assez extraordinaires pour arriver à faire en sorte de répondre à tous les besoins de la famille, et peu importe l'âge. Voilà.
C'est
qu'ils ont cette capacité de fabriquer des meubles, des possibilités, etc. Ouais. Et je trouve juste qu'on devrait s'inspirer, en tout cas architecturalement aussi, de ce qui existe quand on est contraint. Voilà, ça c'est important. Et enfin, sur ma punchline, j'en ai qu'une seule, c'est reculer n'est pas une option, donc voilà. Bon courage.
Alors, on va essayer de synthétiser justement pour cette partie du débat. Si on veut aller vers plus de modularité, reculer n'est pas une option. Pour cela, il faut quand même avoir du conseil et de l'accompagnement. Pour pouvoir avoir ce conseil d'accompagnement, il faut travailler, anticiper ensemble, justement pour aller vers cette vie, se vivre ensemble. Pour ça également, il faut faire preuve d'intelligence, d'intelligence au sens propre du terme, mais également d'intelligence architecturale. Pour pouvoir faire preuve d'intelligence architecturale, il faut vouloir risquer l'impossible, et pour risquer l'impossible, hashtag je peux.
Bravo. Ça sera très bien, Sylvain.
Ça sera la fin de cette
partie,
notamment avec ce débat extrêmement intéressant. Merci à vous, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer, à suivre les amis. Nous avons le lab où on va, avec notre ami Thibault, faire un focus sur les startups du secteur. Vous êtes invités à rester, hein, les amis, si vous le souhaitez, mais je voudrais vous remercier au nom de toute la rédaction. Un immense merci à Axel Alétru, athlète de haut niveau. Merci d'être venu sur le plateau. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous, sachez-le. Je pense que vous avez le charisme et la dimension pour mener ce combat qui est digne d'être mené. Je réitère notre engagement au sein de la rédaction et de notre groupe média. On vous accompagnera si on peut vous être utile, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Merci d'être avec nous. Édouard Pastor, un immense merci. Enfin, un architecte des PLG, pionnier de l'accessibilité en France. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes également, et croyez-moi les amis, c'est hyper important, un assistant à la maîtrise d'ouvrage pour accompagner les professionnels dans justement les situations de construction. Un immense merci à vous, Marc Véreuve, vice-président de l'APF France Handicap, une association de défense et de représentation des personnes en situation de handicap, ainsi que de leurs proches. Un immense merci d'être venu sur le plateau. Également, vous êtes chez vous ici, vous revenez quand vous voulez, dès que vous avez besoin de nous, pour avoir une chambre d'écho, vous n'hésitez pas.
Merci beaucoup.
C'est un vrai plaisir de vous avoir. Un immense merci à Christine Daoud, qui est avec nous également, directrice qualité, expérience client chez Domitis. Un petit clin d'œil à Olivier Vignol. Je pense qu'il ne va pas louper l'émission, il va nous écouter. En tout cas, merci pour ce que vous faites, parce que vous êtes l'un des rares acteurs immobiliers à justement avoir pris en compte cet effet du vieillissement des populations, avec des résidences-services qui sont adaptées il faut y aller, bien évidemment. Un immense merci également à Caroline Pasquero, qui est avec nous à distance, qui nous avait fait part, effectivement, de l'approche financière dont on a besoin. On a besoin de vous, Caroline, et de vos services. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et stratégique du groupe Empruntis. Voilà, à suivre le Lab dans le numéro 9 de Débat Immo par Oui Invest. C'est tout de suite. Voilà, nous avons l'habitude, les amis, on a fait un débat extraordinaire. Je rappelle quand même qu'il est en replay si vous avez loupé l'émission. Et vous verrez, ça vaut vraiment la peine d'écouter et de prendre. Et n'ayez pas peur, voilà, surtout n'ayez pas peur. La solidarité, c'est ce qui fait souche et communauté. Même si on n'est pas d'accord, parce que la vitalité démocratique, on n'est pas toujours d'accord, mais on a le droit, justement, de débattre. Bonjour Thibault. Bonjour. Noki, alors le jeune start-upper, Noki, en quelques mots, problématique du secteur immobilier que vous avez voulu résoudre. Parce qu'avec vous, c'est pas IA, c'est IA vraiment.
Exactement. Alors, jeune, effectivement, je rebondis. Il se trouve que nos bureaux sont à la station F et qu'à la station F, à 31 ans, on est déjà parmi les plus vieux, je crois.
Ah ouais, carrément.
mais effectivement, mal, donc on a voulu vraiment apporter la technologie sur des problématiques vraiment concrètes que rencontrent les agents immobiliers. Et donc, on a créé une start-up il y a 3 ans maintenant, en 2022, avec mon associé Léo. Donc, on crée des outils pour simplifier le parcours de location. Donc quand une agence met un appartement en location, on a créé la première application d'état des lieux assistée par l'IA.
Et ça permet effectivement d'optimiser, d'aller plus vite, plus efficace. Vous dites que c'est une aide pour les professionnels, la gestion des états des lieux, la relation client. Est-ce que vous changez concrètement, est-ce que vous améliorez à la fois la productivité de l'agent immobilier, mais également de l'administrateur de biens?
Exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, je pense qu'on a tous été confrontés, on a tous fait un jour un état des lieux, alors soit en tant que locataire, soit en tant que propriétaire, soit en tant qu'administrateur de biens ou agence. Il faut savoir que faire un état des lieux, c'est fastidieux, c'est chronophage, c'est source de stress. Je pense que tout le monde le sait. Personne n'adore faire ça. Personne se bat, aucun agent, pour aller faire un état des lieux. Pour une simple et bonne raison, c'est que si on devait faire, par exemple, l'état des lieux de cette pièce, il faudrait rentrer dans la pièce et aller inscrire, alors soit sur papier, soit maintenant ça se fait de plus en plus sur des tablettes, inscrire qu'il y a de la moquette grise, il y a des murs peints en noir, en blanc.
Bref, c'est chiant, quoi.
C'est chiant, exactement, c'est fastidieux. Et donc on propose un outil qui permet simplement, effectivement...
Comment on fait ?
Très simplement, je suis un agent immobilier, plutôt que d'avoir à tout rentrer dans ma tablette ou sur papier,
je prends une photo,
deux trois photos de ma salle de bain, de ma cuisine, etc. Et l'IA va proposer de remplir automatiquement dans l'état des lieux les différents éléments avec les revêtements, etc.
Et vous n'avez pas intérêt à louper un truc dans la pièce, hein.
Non, alors il faut savoir que c'est quand même fiable à 95%, donc on va pré-remplir les choses. En revanche, on ne remplace pas l'agent, c'est-à-dire que c'est quand même l'agent sur place qui va contrôler.
Alors attendez, il faut qu'il se déplace.
Il faut qu'il se déplace, évidemment. C'est pas un drone.
Ok, voilà, on n'a pas un avatar numérique ou un hologramme qui vient prendre la photo à la place.
Non, et d'ailleurs, on ne le voit pas comme ça, et on ne veut pas que ce soit ça. On veut vraiment que l'IA, ce soit une IA qui aide l'agent sur place.
Pour résumer, je prends mon téléphone, j'ai une application.
Je prends mon téléphone. Je prends 2-3 photos de la pièce.
Okay.
Et l'IA va me proposer secondes.
Il y a un process.
Exactement. L'IA va me dire.
Pas n'importe quelle photo dans la pièce.
Non, je prends 3 photos d'ensemble, grand angle de la pièce, pour bien voir les éléments visibles. Et l'IA va me proposer d'ajouter tous les éléments qui sont visibles. Donc elle va me dire, les murs, c'est de la peinture blanche. Je dis oui, c'est de la peinture blanche. Et donc en fait, j'ajoute tout dans ma pièce en quelques secondes.
Okay.
Et vous allez me dire pour le reste qui est dans les placards. Évidemment, l'IA va pas rentrer dans les placards.
Bah ouais.
Quand on a un logement meublé, on fait une cuisine.
Mais imaginons qu'il y a une défaillance sur, par exemple, les plaintes sur lesquelles il y a le réseau électrique.
Oui.
Est-ce que l'IA va dire, attendez, là, il y a un souci, là, ou pas ?
L'IA va...
Parce que l'état des lieux, c'est la remise en état, c'est la photographie de l'état par rapport à l'état d'origine.
Oui.
Et quand on quitte un appartement ou autre, ça fait partie effectivement soit d'une partie éventuellement à prendre sur la caution ou pas, des dégradations qui auraient pu avoir lieu. Donc l'état des lieux est capital quand on sort des...
Exactement, c'est l'étape la plus importante dans le process de location. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a le dépôt de garantie.
Et elle est juridiquement opposable.
Bien sûr, tout à fait.
Alors justement, c'est fiable ? On arrive...
95%.
Okay. Ouais, donc 95%.
Sur quelle base ? Non mais attendez, sur quelle base ? 95%.
Je pense que Sylvain, avant tout, ce qu'on doit mettre en avant, c'est que ce type d'application aujourd'hui te permet déjà de réduire ta tâche chronophage. Aujourd'hui, quand tu es conseiller en location ou que tu es gestionnaire, tu peux te retrouver à devoir faire dans ta journée plusieurs états des lieux. Aujourd'hui, l'avantage que tu as une aide conceptuelle qui te prend tes photos, qui permet d'emmagasiner l'ensemble de ce qui est décrit dans la pièce, et vocalement, tu as la capacité de le modifier à l'instant T. Donc tu réduis en moyenne entre 3 à 4 fois ton temps. ton temps qui est alloué. Donc, ce qui veut dire que tu deviens plus performant. Tu fais attention à beaucoup plus de détails, parce que dans les faits, comme il y a déjà un travail macro qui a été émis, si tu as un report sur ta plainte, tu vas pouvoir aller le constater. On n'est pas là pour remplacer le travail que tu fais.
Donc, vous avez testé. Voilà.
Oui, bien sûr, je trouve ça très bien.
Super.
Ah, je trouve ça très bien. Personnellement, je trouve ça très bien. C'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, de toute façon, on doit apprendre à nos négociateurs à faire toute l'enquête rendue vocalement en sortant directement de la visite client, parce que tout est chaud.
C'est valable pour les négo locations.
Négo location, gestionnaire de copro, parce que enfin gestionnaire même en copro, gestionnaire.
Le transactionnaire, il en a moins besoin.
Bah, en réalité, un transactionnaire, s'il se retrouve pour dépanner une collègue et qu'il doit faire l'état des lieux d'entrée, dans les faits, voilà. Et puis ça va remettre aussi quelque chose sur le marché qu'on voit de moins en moins.
Quand vous faites état des lieux d'entrée et de sortie.
Mais quand vous faites du locatif aujourd'hui, de plus en plus, vous n'avez même plus d'état des lieux d'entrée, dans les faits. Parce que c'est tellement, quand vous êtes dans un camping et que vous avez 400 mobilhomes, plus personne fait d'état des lieux d'entrée. C'est un gros problème. Bah là, dans les faits, vous pouvez remettre en place des choses avec ce type d'applicatif qui permet justement d'éviter les contestations qu'on a après.
Combien ça coûte?
Alors, on a deux formules. On a une formule qui est à l'unité. Donc, pour les transactionnaires qui font un petit peu de location ponctuellement, ça va être 5,99€ l'état des lieux, tout simplement. Donc, pas d'abonnement, pas d'engagement. Et sinon, on a des offres qui démarrent à 50€ par mois pour les agences qui veulent en faire en illimité.
Alors, avec 50€ par mois pour une boîte qui a 1500 lots en gestion et qui fait 140 locations par an, c'est 50 balles par mois.
Alors 50€ par mois, c'est le démarrage, ça compte un utilisateur, ça inclut un utilisateur et toutes les fonctionnalités d'IA.
Alors on va être pragmatique, une entreprise qui a 1700 lots, qui fait 150 locations par an, combien ça peut coûter la solution
c'est de le fonctionnement à l'utilisateur.
À l'utilisateur, s'il a deux utilisateurs par exemple qui font les états de lieu, ce qui peut être à peu près
100 euros.
Ça va lui coûter 60€ puisque c'est 50€ par mois plus 10€ par utilisateur supplémentaire.
Eh ben voilà. Réponse, elle est dans la réponse, justement. Voilà, pour les administrateurs de biens qui nous écoutent, super solution. Vous serez au rent.
On sera au rent, effectivement, et on montrera à quel point on a...
Et qu'est-ce qu'on fait quand on vient au rent? On va voir son vieux Lévy sur Radio Immo pour lui parler de Nokia.
Et bon, on sera là,
voilà.
Bien sûr.
Et on vous accueillera avec beaucoup de plaisir.
Merci.
Voilà. Bon, je sais que vous m'inviterez, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà.
J'ai été ravi de faire cette émission.
Voilà. Voilà, c'était un vrai plaisir de faire cette émission. Encore une fois, il faut le faire de façon très détendue. Oui, tout le monde, je sais que j'aime beaucoup Xavier Bellevaux, c'est pour ça qu'on se taquine très gentiment sur les réseaux sociaux. C'est le seul qui me tutoie à l'antenne. Dont j'accepte qu'il me tutoie à l'antenne.
De toute façon, je tutoie
voilà.
Tout le monde.
Voilà, de toute façon, faut être simple. Il tutoie tout le monde. WeInvest, voilà, justement. WeInvest, un réseau extrêmement performant. Ce que vous avez fait en un an, c'est absolument remarquable. Et d'ailleurs, j'encourage toutes celles et ceux qui nous écoutent, si un jour vous cherchez une solution, par exemple, pour vous installer à votre compte et vous voulez devenir agent immobilier ou même administrateur de biens et avoir un groupe dynamique et toujours innovant, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, pour être mandataire, éventuellement avoir une agence ou pas, direction WeInvest. Voilà, tout simplement.
Eh ben, merci Sylvain.
C'est bien.
Oui, hein, très bien. Parfait.
Voilà, non, mais en plus.
Pas besoin de faire Marie-Claire.
Tout le monde le sait et le fait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous aidez également à produire des contenus thématiques auxquels on ne s'attendrait pas qu'un agent immobilier pense. Oui, et donc vous êtes certainement le premier réseau à avoir pensé à faire une émission sur le handicap, et j'en suis ravi parce que vous m'avez donné la possibilité de le faire. En tout cas, un immense merci à vous. Voilà, je vais encore remercier nos invités qui étaient sur le plateau, Axel Alétru, athlète de haut niveau, Edouard Pastor, architecte des PLG, bravo pour ce que vous faites, assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est hyper important, Marc Vérov, un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau, vice-président de l'APF Handicap, Christine Daoud qui était avec nous, directrice qualité chez Domitis. Vous, Thomas
Thibault Langiel.
Thibault Langiel, cofondateur de Nokia. Comment il s'appelle le cofondateur?
Donc mon associé Léo. On a une équipe de 5 personnes extraordinaires.
Léo, si tu nous écoutes, voilà, vous êtes le bienvenu sur le RENT, sur notre plateau. Vous êtes invité, Caroline Pasquereau, directrice marketing stratégique du groupe Empruntis, bien évidemment. Et vous, bien sûr, Xavier Bellevaux. On va vous retrouver pour la dixième numéro. Vous voyez, on a déjà fait toute une belle collection.
Ça passe.
Voilà, on a des très bons contenus que vous pouvez retrouver sur notre application Radio Immo en totalité. Vous avez des extraits que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous contacter, nous donner aussi des idées. On sera toujours très preneurs. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt pour l'édition 10 de Débat Immo avec WeInvest.
Débat Immo, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio Immo, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.